présente Summer Melody de David Nichols, lu par Maxime Van Zandvoort. À Anna, Max et Romy. Première partie. Juin. Elle n'était membre de rien cet été-là. Elle ne faisait partie d'aucun club, ni de quoi que ce soit au monde. Elle se sentait sans aucune attache, et elle rôdait autour des portes. Et elle avait peur. Carson McCullers, Frankie Adams. La fin du monde. La fin du monde aurait lieu le jeudi à 15h55, juste après la fête. Jusque-là, notre expérience la plus proche d'un tel cataclysme à Merton Grange s'était limitée aux rumeurs d'apocalypse qui se propageaient une à deux fois par trimestre, à peu près toujours dans les mêmes circonstances. Mais pas de banales rumeurs d'éruption solaire ou de collision avec un astéroïde. À la place, un tabloïd mentionnait une prophétie maya, une remarque anecdotique de Nostradamus, ou un parallèle bizarre dans le calendrier, et la nouvelle se répandait qu'on allait disparaître en plein cours de physique. Résigné devant cette hystérie, notre professeur soupirait et interrompait sa leçon pendant qu'on se disputait pour savoir qui avait la montre la plus précise. Le compte à rebours commençait. Les filles s'agrippaient les unes aux autres, les yeux fermés et le dos voûté, comme si elles allaient être arrosées d'eau glacée. Les garçons fanfaronnaient, et on pensait tous en secret à ce baiser jamais donné, à telle querelle non réglée, à notre virginité, à nos amis, à nos parents. 4, 3, 2, chacun retenait son souffle. Puis quelqu'un criait « Bang !» Et on éclatait de rire, soulagé et presque un peu déçu de nous retrouver vivants, surtout pendant un cours de physique de 2 heures. « Vous êtes contents maintenant ? Remettons-nous au travail, d'accord ?» Et on s'efforçait de nouveau de calculer quelle distance pouvait parcourir un corps soumis à une force d'un newton. Mais jeudi à 15h55, juste après la fête, tout allait changer. Le temps avait passé lentement durant 5 longues années, et à mesure que les dernières semaines, puis les derniers jours se succédaient, on sentait flotter dans l'air un mélange d'euphorie et de panique, de joie et de peur, le tout mêlé à un nihilisme effréné. Les courriers adressés à nos parents et les heures de colle n'avaient plus aucun effet sur nous. À quels actes allait-on bien pouvoir se livrer impunément dans ce monde où plus rien ne prêtait à conséquence? Dans les couloirs et les salles de classe, les extincteurs présentaient soudain un terrible potentiel. Scott Parker oserait-il vraiment dire ce qu'il avait l'intention de dire à Madame Ellis? Tony Stevens mettrait-il encore le feu au département de lettres? Et voilà que, chose incroyable, le dernier jour était arrivé, glorieux et radieux, et avec lui des entorses au règlement sitôt passé la porte du collège. Cravate portée en bandana ou en garrot, aux nœuds tantôt aussi compacts qu'une noix, tantôt gros comme le poing. Rouge à lèvres, bijoux et cheveux teints en bleu, assez pour évoquer une boîte de nuit futuriste. Qu'allaient faire les professeurs? Nous renvoyer chez nous? Ils ont soupiré et nous ont laissé passer. Parce que plus rien ne justifiait qu'on apprenne la définition du bras mort d'un fleuve. La dernière semaine avait été consacrée à des cours décousus et démoralisants sur la vie adulte, laquelle semblait-il consistait pour l'essentiel à remplir des formulaires et à rédiger des CV. Loisirs et centres d'intérêt, socialiser avec autrui, se cultiver devant la télé. On avait appris à équilibrer un budget. Mais plus que tout, on avait regardé dehors, par la fenêtre, en pensant « Il n'y en a plus pour très longtemps maintenant. 4, 3, 2. » À la pause, de retour au foyer des élèves, on a commencé à gribouiller des graffitis au feutre sur nos chemises blanches, penchés sur le dos les uns des autres comme des tatoueurs dans une prison russe, à recouvrir d'injures sentimentales le moindre espace disponible. « Bonne continuation, connard !» m'a écrit Paul Fox. « Cette chemise pue !» a noté Chris Lloyd. Plus lyrique, mon meilleur pote Martin Harper a griffonné « Ami pour la vie » sous une bite et des couilles joliment représentées. Harper, Fox, Lloyd. Mes meilleurs amis à l'époque. Pas de simples gars, mais les gars. Et si quelques filles gravitaient à la périphérie de notre cercle, Debbie Warwick, Becky Boyne et Sharon Findlay, notre quatuor était impénétrable et se suffisait à lui-même. Bien qu'aucun de nous ne jouât d'un instrument, on se voyait comme un groupe. Harper, on le savait tous, était notre chanteur et premier guitariste. Fox assurait les basses, un boum 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 basique et discret. Lloyd, autoproclamé fou, s'était arrogé le rôle du batteur, ce qui me laissait celui du « joueur de maracas », avait décrété Lloyd. Cela nous avait fait marrer, et maracas s'était ajouté à la longue liste de mes surnoms. Fox s'employait justement à en dessiner sur ma chemise. Des maracas croisés sous un crâne, à la manière d'un insigne militaire. Debbie Warwick, dont la mère était hôtesse de l'air, avait réussi à entrer avec un sac entier de mignonnettes aromatisées au café, à la menthe et à la noix de coco, nos parfums préférés. Le poing enroulé autour de petites bouteilles, nous les avons sifflées en grimaçant et en nous étranglant pendant que M. Ambrose, les pieds sur son bureau, restait concentré sur le film « Sauver Willy 2 » qui passait au fond de la salle, une faveur dont tout le monde se foutait complètement. Les mignonnettes ont constitué l'apéritif de notre tout dernier repas au collège, où le souvenir de la légendaire bataille de nourriture de 1994 demeurait vivace. Cette année-là, les dosettes de ketchup avaient explosé sous les chaussures des élèves, les poissons panés volaient dans les airs comme des étoiles de ninja, et les pommes de terre fourrées s'étaient transformées en grenades. « T'es pas cap ?» a dit Harper à Fox, qui évaluait le poids d'une saucisse caoutchouteuse en la tenant par un bout. Mais les professeurs qui patrouillaient parmi nous tels des gardiens de prison et la promesse d'une génoise à la crème en dessert nous ont fait battre en retraite. Devant l'assemblée des élèves de dernière année, M. Pasco a prononcé le discours auquel on s'attendait tous. Il nous a encouragés à nous tourner vers l'avenir, tout en gardant le passé à l'esprit, à viser haut tout en surmontant les coups bas de la vie, à croire en nous tout en pensant aux autres. Le plus important n'était pas seulement ce que nous avions appris, et il espérait que nous avions beaucoup appris, mais aussi le genre de jeunes adultes que nous étions devenus. Nous l'avons écouté, nous, les jeunes adultes, partagés entre le cynisme et le sentimentalisme, indisciplinés en apparence et, au fond de nous, intimidés et tristes. On ricanait et on affichait notre impatience. Mais ailleurs, dans la grande salle, des mains en ont agrippé d'autres et des reniflements se sont fait entendre lorsque M. Pasco nous a invités à chérir les amitiés que nous avions nouées et qui dureraient toute notre vie.
« Toute notre vie ? Putain, au secours !»
a dit Fox en coinçant ma tête sous son bras et en frottant affectueusement son poing serré contre mon crâne. L'heure de la remise des prix avait sonné. On s'est enfoncé dans nos sièges. C'était toujours les mêmes élèves qui décrochaient des récompenses, et les applaudissements ont cessé bien avant qu'ils aient quitté la scène pour venir poser devant le photographe du journal local un chèque-livre brandi bien en évidence sous le menton, comme pour une séance d'identification au poste de police. Puis, dirigé par M. Solomon, professeur de musique, le Merton Grange School Swing Band a entrepris d'étancher notre soif de jazz américain en se lançant dans une interprétation cacophonique et lourdingue d'In the Mood de Glenn Miller. Lloyd a vigoureusement protesté.
« Pourquoi ? Mais pourquoi ?»«
Pour nous mettre dans l'ambiance, » a répondu Fox.
« Quelle ambiance ? » ai-je demandé.
« Une ambiance de merde, ouais !»«
Je suis vénère, par Glenn Miller et son orchestre. »«
Pas étonnant que son avion se soit crashé, » a conclu Harper. Mais, à la fin de ce tir de barrage, Fox, Lloyd et lui se sont tout de même levés d'un bond en criant « Bravo, bravo !» Sur scène, Gordon Gilbert, qui avait l'air complètement dément, a saisi son trombone à deux mains par le pavillon et l'a lancé haut, très haut dans les airs, où il est resté suspendu un instant avant de se fracasser par terre et de se froisser comme une boîte de conserve. Et pendant que M. Solomon hurlait après lui, on a filé en douce vers le lieu de la fête.